Se retrouver obligé de jeter sa récolte, contaminée par un pesticide alors qu'on est agriculteur bio. David Péchard, agriculteur céréalier amer, a été confronté ces dernières années à ce problème sur ses récoltes de sarrasin. Ce pesticide, c'est le prosulfocarbe, un herbicide utilisé comme désherbant en agriculture conventionnelle, notamment sur les cultures de céréales. Un herbicide très volatile dont l'impact reste encore peu connu. En septembre 2025, l'idée a germé de faire analyser les jardins de particuliers, de sensibiliser les riverains au prosulfocarbe, et si leurs potagers étaient eux aussi contaminés. Et les résultats de cette campagne de prélèvement réalisée par le groupement des agriculteurs bio du Loir-et-Cher font froid dans le dos. David Péchard, coprésident du GABLEC, est avec nous aujourd'hui pour en parler dans cette chose commune. Bonjour David Péchard.
Bonjour.
Merci de venir à Studio ZEF pour nous parler de cette étude qui a été publiée il y a quelques semaines maintenant. J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui de Valentin. Salut Valentin.
Bonjour.
Valentin, tu es stagiaire pour 15 jours ici avec nous et tu as préparé avec moi cette émission.
Tout à fait.
Alors pour commencer David, je vous laisse représenter le GABLEC et puis les autres partenaires qui ont permis la publication et la mise en place de cette étude et de ses analyses autour du prosulfocarbe.
Oui, tout à fait. Donc David Péchard, donc, je suis coprésident du GABLEC, qui est le groupement agricole des agriculteurs bio du Loir-et-Cher, qui est l'association qui regroupe et qui défend l'ensemble des producteurs bio de ce département. Et on fait partie d'une interprofession qui s'appelle Biocentre à l'échelle régionale, qui elle-même fait partie de l'association nationale, la FNAB, la Fédération nationale des agriculteurs bio, qui a participé également à cette démarche et à cette étude sur la contamination de notre milieu par le prosulfocarbe. On s'est associé pour la communication également à Génération Future, qui a été le porteur de la communication à l'échelle nationale avec la FNAB pour atteindre, on va dire, le plus grand nombre de citoyens.
Et cette étude a fait pas mal parler. Il y a eu plusieurs articles, notamment dans Libération, Reporter, Le Monde en a parlé aussi. Donc la communication est réussie et j'imagine que vous êtes content un peu de l'impact.
Bien sûr, c'est une première étape parce que l'objectif au final, c'était quand même de mettre sur le devant de la table cette problématique qu'on a depuis plusieurs années maintenant et que les choses évoluent pour nous agriculteurs mais également pour nous citoyens. Et c'est vrai que la communication est un enjeu fort pour le faire comprendre et le faire entendre en tout cas du plus large public et également des politiques qu'on a alerté à plusieurs reprises et qui malheureusement n'ont pas pris en compte nos revendications dans le passé.
Peut-être pour débuter, on peut revenir à votre histoire personnelle. Vous êtes céréalier près de mer et donc vous connaissez le prosulfocarbe puisqu'il vous pose préjudice depuis plusieurs années.
Tout à fait. Je connaissais le prosulfocarbe parce que dans mon passé, j'étais en agriculture conventionnelle. Donc j'ai utilisé ce produit dans le passé, à l'époque, sans savoir cette possibilité de volatilisation à grande échelle et de contamination à grande échelle. Et j'ai découvert donc en 2018 la contamination de mon quinoa, qui ne me concernait pas tout seul. On était une petite dizaine de producteurs en région Centre-Val-de-Loire à faire du quinoa à l'époque. Et tous les agriculteurs en 2018 ont été contaminés par cette molécule suite à des analyses, puisqu'en agriculture biologique, on a la chance, en tout cas pour le citoyen, d'avoir un cahier des charges extrêmement strict avec des contrôles fréquents. Et donc, on a eu des analyses sur notre quinoa tous ensemble et on s'est aperçu que voilà, tout était contaminé. Donc, c'était une première alerte pour nous qui nous a montré qu'il y avait un vrai souci avec cette molécule. Et une autre alerte, c'était que on ne pouvait pas être indemnisé. Donc on a dû malheureusement jeter cette marchandise, la mettre directement à la poubelle. Et donc ça a été un premier choc, tant psychologique, parce qu'on ne s'attendait pas à avoir une molécule utilisée par les collègues conventionnels voisins qui contaminaient nos cultures. Et ensuite, savoir qu'on devait jeter cette marchandise et ne pas être indemnisé, ça a été un deuxième choc financier non négligeable. Donc ça, c'est arrivé une première fois en 2018 et individuellement, ça m'est arrivé également en 2022 sur du sarrasin cette fois, avec la même problématique, du sarrasin jeté à mettre à la poubelle, tout simplement, sans aucune indemnisation possible. Et étant co-président du GABLEG, on a beaucoup de remontées terrain de collègues à qui ça arrive tous les ans. Là encore en 2025, sur la dernière récolte, on a deux, trois collègues qui nous ont appelés démoralisés par cette situation parce que ça touche du sorgho, ça touche également du millet, ça peut toucher du tournesol. Enfin voilà, toutes les cultures qu'on dit d'automne, qu'on cultive très tardivement, qui peuvent être potentiellement contaminées au prosulfocarbe.
Cette pollution à l'arrivée, tout simplement, comment il y a eu l'idée de regarder dans les jardins des particuliers pour alerter tout simplement de cette contamination qui s'est étendue du côté des particuliers?
C'est ça. On a fait pas mal de réunions publiques, on a alerté en tout cas les pouvoirs publics sur cette problématique qui est purement agricolo-agricole, donc notre problématique de contamination de nos champs en bio, mais qui concerne également les collègues en conventionnel, hein, ça ne s'arrête pas aux champs bio, donc tous les collègues qui font des cultures type sarrasin, millet, tournesol peuvent être concernés. Et la non-indemnisation, ça c'était notre vraie problématique de départ. Donc on a alerté les élus, les députés, les sénateurs, les ministres de l'Agriculture à l'échelle nationale avec l'AFNAB, et on n'a rien vu venir, rien ne se passait. C'est-à-dire que les élus nous entendaient bien, comprenaient bien, je pense, la situation, mais on ne voyait rien venir. C'est-à-dire que nous, on demandait au minimum une indemnisation de notre préjudice. Ça, c'est depuis 5 ans qu'on se bat pour ça et rien ne venait. Donc on s'est dit qu'on allait élargir la focale, voir au-delà de notre problème purement agricolo-agricole, aller voir ce qui se passait chez les particuliers, parce qu'on pense, et on a été convaincus à l'époque, que si ça contaminait nos champs, il y avait probablement un vrai problème au-delà de nos champs et donc dans les jardins des particuliers. D'où cette initiative qu'on a faite en 2025, à l'automne 2025, d'aller analyser les fruits et légumes dans les jardins des particuliers.
Se trouvant à proximité, mais pas spécialement, puisqu'il y a des analyses qui ont été faites principalement dans le territoire, dans le nord du département du Loir-et-Cher. J'imagine que la plupart de ces propriétaires ont dû être surpris.
Ils ont été surpris, choqués, je pense, pour certains aussi, parce que, en effet, nous, on s'y attendait un peu à avoir des résultats positifs, mais pas à cette ampleur. C'est-à-dire qu'on a fait une quinzaine d'analyses. Sur les 15 analyses, il y en a plus de 10 qui sont ressortis positifs, donc avec des résidus de prosulfocarbe dans les fruits et légumes. Et sur ces 10-là, il y en a 6 qui sont ressortis avec des taux limites maximales qui étaient dépassés par rapport à la possibilité ou non de consommer ces produits. Donc, 6 produits, donc quasiment 40% de la totalité de nos analyses où on avait des produits qui étaient impropres à la consommation, tout simplement. Donc, pour des particuliers, et on en connaît beaucoup dans le lot, qui font tout ce qu'il faut, en tout cas, pour produire dans leur jardin une nourriture de qualité, sans aucune utilisation de produits de phytosanitaires, sans aucun pesticide, savoir que, sans le vouloir, ils ont consommé depuis plusieurs années des fruits et légumes contaminés, c'est un peu choquant et c'est... Enfin voilà, les mots sont forts, hein, mais c'est une sorte d'empoisonnement quand même qu'ils ont subi à leur insu, quoi.
Justement, on a donné la parole à Flora qui habite dans le Perche, Vendômois, et qui témoigne de sa participation à cette étude et elle nous donne son témoignage. On écoute son témoignage. Bonjour Flora.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre demande. Donc vous êtes l'une des citoyennes et des citoyens qui a participé à cette action de recherche autour du prosulfocarbe. Comment vous avez pris connaissance de cette proposition du GABLEC et comment vous avez mis le pas dans cette aventure ?
Alors, j'ai pris connaissance par hasard parce que je connais par mon réseau professionnel Agathe Dupuis qui travaille au GABLEC et je lui avais fait part de mes inquiétudes globales autour des pesticides. Et donc, elle m'a dit on fait une étude dans les jardins des particuliers. Et voilà, de fil en aiguille, je lui ai proposé, j'ai été volontaire pour proposer mon jardin.
Et est-ce que vous connaissiez le prosulfocarbe avant cette étude ?
Non, pas particulièrement. Non, j'avais déjà eu des questionnements autour de l'atrazine dans l'eau il y a une quinzaine d'années,
oui.
Qui m'avait beaucoup interrogée parce qu'à l'époque je faisais une fécondation in vitro et donc je m'étais rendu compte que l'atrazine était un infertilisant et on m'avait dit qu'il y avait probablement des raisons à mon infertilité qui pouvaient être des causes environnementales. Donc déjà j'étais dans une démarche il y a 15 ans hein, de d'être très attentive à la pollution autour de moi.
Avec
donc, je connaissais la tazine, je m'étais posé des questions sur le glyphosate au moment où on en a beaucoup parlé. Et puis voilà, non, le prosulfocarp, j'en avais aucune idée. Après, j'en avais aucune idée, mais à l'automne, il y a une odeur étrange dans l'air, beaucoup de gens autour de moi en parlaient. Oh, t'as vu en ce moment, enfin, je ne suis pas la seule à avoir identifié cette odeur très 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 particulière au moment où justement tous les tracteurs avec les pulvérisateurs sont dans les champs. On le sent vraiment dans l'air à ce
D'accord.
moment-là.
Oui, c'est quelque chose qui est olfactivement perceptible et.
Ouais, avec une odeur très particulière,
Dans votre jardin, quels ont été les résultats?
C'était malheureusement les plus hauts de tous les tests là, qui ont été faits. Donc 0,35 mg au kilo, alors que la limite de consommation, donc la limite. Toutes ces choses-là, je les ai découvertes après. Hein. Moi, sur
Oui.
le coup, je n'ai pas du tout mesuré. Donc la LMR, limite moyenne de résidus, je crois que ça s'appelle. Et c'est-à-dire la limite de consommation légale, c'est 0,01. Donc dans mon jardin, c'est 34 fois plus que la limite de consommation légale sur mes pommes. Donc sur les pommes, pour le coup, la pomme, c'est vraiment le truc qu'on attrape, on mange. Surtout quand on se dit on n'a rien mis dessus.
Oui, et que vous
Vous voyez,
consommiez.
on prend en croque, je ne les épluche pas, c'est des petites golden. C'est un vieux pommier en plus, qui a beaucoup donné cette année. Donc on en a bien profité avant de se rendre compte. Alors je ne sais pas à quel moment ça a été pendu. Puis il y a aussi ce manque terrible d'informations. C'est qu'on ne sait pas à quel moment ça a été pendu, on ne sait pas par qui, on ne sait pas. Donc on ne peut pas lutter en fait. On ne peut pas demander aux gens de nous prévenir parce qu'on ne sait pas d'où ça
D'accord.
vient.
Est-ce que vous consommiez d'autres produits dans votre jardin, voilà, à part le pommier, est-ce que vous aviez un potager?
Oui, bien sûr, ouais. Un choix de vivre une vie saine. J'ironise un peu parce que maintenant que je sais que c'est très empoisonné, ça me fait rire jaune. Mais
Oui.
oui, j'ai un potager où on cultive des légumes, mais plutôt l'été. Hein. Enfin, c'est un potager d'été, donc c'est disons du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, mais pas plus. Et puis j'ai beaucoup de fruitiers, ouais. J'ai des pêches, des cerises, des poires, du raisin.
Est-ce que du coup ça transforme complètement vos habitudes et vous avez décidé ou voilà, vous êtes dans une démarche plutôt de tout arrêter ou voilà, qu'est-ce que ça?
Non, alors je ne vais pas tout arrêter parce que je sais qu'il y a des périodes où il y a des pas d'épandage, je vois à peu près, mais je vais continuer à me renseigner pour savoir comment. Enfin non, je vous avoue, pour l'instant, je suis un peu dans le parce que les résultats sont assez récents. J'ai mis
Oui.
longtemps à comprendre ce que ça impliquait. Puis du coup, parce que moi, j'étais pas vraiment au courant du prosulfocarp comme je vous disais avant, et du coup, maintenant, je découvre petit à petit. Donc, je me dis comment faire pour s'en protéger, mais je vais pas arrêter parce que manger bio, manger les produits de son jardin, ça reste encore ce qu'il y a de plus sain. Hein.
Bien
Quoi
sûr.
qu'il arrive. Mais c'est énervant de penser que c'est empoisonné quand même. Et c'est très, très, très insécurisant. Je me sens, moi, et surtout par rapport à mes enfants, en totale insécurité. Parce que, enfin, ça me fait peur. Franchement, ça me fait peur. Parce que je ne vois pas comment manger sainement. Parce que si je ne mange pas ce qui est produit dans mon jardin, je mange bio et local. Mais je ne me fais pas d'illusions. Bio et local, ça veut dire qu'il y a les mêmes risques. C'est qu'ils sont dans le même air que moi.
Oui, il y a les mêmes possibles
Donc, il y a des
contaminations.
retombées aussi sur mes voisins maraîchers, enfin, qui sont à 1 km. Il n'y a pas de raison que. Et etc. Et puis, et plus loin, je crois pas que. Alors, ça reste toujours mieux de manger bio, j'en suis convaincue, mais avec cette même incertitude, en fait. C'est pour ça que maintenant, je suis convaincue qu'il faut absolument arrêter ces molécules, surtout dans la mesure où elles sont volatiles à ce point-là, c'est pas possible.
Est-ce que ça a créé des liens, des choses entre les participants, entre les 25 volontaires et particuliers qui ont bien voulu donner leur jardin à étude?
Alors, je ne sais pas exactement, je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, localement, nous, dans le Perche, Vendôme, on était trois. On s'est retrouvés avec ces trois-là, mais aussi avec beaucoup, beaucoup de voisins, beaucoup de gens qui ont été très alarmés par les résultats. Et puis, comme je vous disais, cette odeur-là d'automne,
Oui.
cette odeur, je sais pas, de produits ménagers qui volent dans l'air un peu, tout le monde en est conscient. Beaucoup de gens, et en fait, ça a délié les langues. Et donc, on s'est retrouvés déjà assez nombreux citoyens, on s'est réunis, on était déjà 35 dimanche dernier. À se réunir et à discuter. On a rencontré la mairie, on a rencontré le préfet. Et c'est quelque chose qu'on a envie maintenant de se mobiliser. En fait, c'est vraiment la sensation que jusqu'à maintenant, on nous demandait sans arrêt de mettre la poussière sous le tapis, vous savez.
Oui.
Et que là, on veut plus. Clairement, on est nombreux à se réunir et à dire stop. Maintenant, on veut pouvoir discuter avec les agriculteurs et sortir de ça parce que c'est pas, enfin ouais, se protéger en fait, avoir les moyens de se protéger. Je sais pas comment encore, mais déjà moi je suis assez admirative du travail qu'ont fait Génération Future, le FNAP, Gablec sur cette histoire. Vraiment assez admirative parce qu'ils font un travail de fond depuis des années, et en suivant ce projet, enfin cette mobilisation, je découvre à quel point le travail des associations et des ONG est important
Et
et fondamental.
primordial, oui.
Ouais, vraiment. Je découvre ça là, mais vraiment, beaucoup de respect du coup.
Et bah, merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage.
Merci.
Un grand merci donc à Flora qui a participé à cette interview. On entend dans le témoignage de Flora le manque d'informations et puis un peu la crainte de ne pas pouvoir continuer à peut-être produire ses fruits et légumes en étant serein de ce qu'il peut y avoir dans l'air. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, David, le prosulfocarbe est le deuxième ou troisième herbicide le plus utilisé en France? Quelles sont les études pour le moment qui ont été faites sur son impact sanitaire? Et qu'est-ce qu'on en sait concrètement?
Donc oui, cette matière active, donc ce pesticide, le prosulfocarbe, est en effet le deuxième même pesticide, hein, tout pesticide confondu, pas uniquement désherbant, utilisé en France. Le premier le plus vendu dans le Loir-et-Cher, en tonnage. Et il sert à désherber donc, les céréales d'hiver, notamment à l'automne. Donc en gros, c'est un produit qui est utilisé du 1er octobre au 30 novembre. En 2 mois, tous les ans. Et comme c'est aujourd'hui, pour les agriculteurs, les collègues conventionnels, l'un des produits les plus efficaces, on considère, et on ne doit pas être loin de la vérité, que la quasi-totalité des céréales que vous voyez dans les champs sont traitées avec ce produit-là. Il n'y a pas d'autres produits aujourd'hui alternatifs utilisés par les collègues conventionnels. Donc c'est cette concentration et cette multiplicité d'utilisation dans nos campagnes qui fait que on a ces retours-là, que ce soit des pollutions dans nos champs, que ce soit chez les particuliers. Et puis il y a l'association régionale qui s'appelle l'IGER qui analyse la qualité de l'air, qui montre concrètement et statistiquement les courbes de prosulfocarbe présents dans l'air. Et on voit bien une courbe en cloche, pour faire simple, qui commence au 1er octobre et qui se termine au 30 novembre. Donc on a vraiment des concentrations fortes également dans l'air de prosulfocarbe un peu partout sur le territoire, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. On a c'est pour ça qu'on le pointe du doigt, ce produit, parce que c'est un produit qui est extrêmement volatile. Il y en a très peu sur le territoire et utilisé par les collègues conventionnels qui soit si volatile. Et on sait, et l'ANSES le dit, que ça migre au-delà de 1 km de son lieu d'épandage. Donc il a une capacité de polluer sur un rayon de 1, 2, voire 3 km autour de son lieu d'épandage. Donc c'est très compliqué à contrôler. On considère qu'il est incontrôlable d'ailleurs. Et les analyses et les tests qu'on a fait là, et l'action citoyenne qu'on a menée montrent bien ce résultat, que ça ne concerne pas que les champs, ça ne concerne pas que le milieu rural, et qu'on en a également des problématiques en milieu urbain ou périurbain. Au niveau sanitaire, la grosse problématique qu'on a avec ce produit, c'est que les analyses de l'ANSES, et notamment sur la toxicologie, la cancérologie de ce produit, datent des années 80, donc qui sont très très anciennes. Aujourd'hui, les protocoles ont vraiment évolué et quand un produit est mis sur le marché, on les analyse avec d'autres protocoles qu'il faudrait mettre en place. Et depuis 2018, il y a des nouvelles analyses qui sont faites sur ce produit, mais qui ne sont pas encore sorties aujourd'hui. Et on est toujours en attente des résultats de la toxicité de cette matière active qui est le prosulfocarbe. Donc on a un profil toxicologique qui n'est pas forcément effrayant aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est... Il est irritant par inhalation et nocif pour le milieu aquatique, ce qui n'est pas non plus anodin. Mais voilà, si on s'arrête à ça, on peut dire bon, bah, c'est pas trop grave. Mais on s'aperçoit que voilà, ce profil toxicologique date de 1987 pour être précis, et donc très ancien, et que on lève ça et l'ANSES le disent bien qu'il faut réévaluer ce produit-là, refaire des études. Et à date de 2018, en tout cas, ça a été relancé en 2018, mais c'est toujours pas sorti. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui bug quelque part. Enfin, on attend vraiment des résultats sur cette toxicité pour être plus clair sur le danger qu'on peut avoir à respirer ou à manger ce produit.
Est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est l'ANSES? Et l'ANSES préconise des consignes d'utilisation. Oui. Quelles sont-elles pour le moment?
L'Agence nationale de la sécurité alimentaire, pour faire simple, c'est elle qui, entre autres, valide ou non et met des règles ou non sur l'utilisation des produits phytosanitaires, mais travaille également sur d'autres sujets, mais sur la partie agricole, en tout cas, met en place des protocoles pour l'évaluation de certains produits phytosanitaires et éventuellement des restrictions pour l'utilisation de ces mêmes produits. Alors c'est ça qui est quand même assez effrayant. Donc ce produit n'est pas tout récent, il existe depuis plus de 20 ans. Et on s'aperçoit que même un produit qui est mis sur le marché, on s'aperçoit qu'après utilisation, il a des impacts non négligeables sur le milieu. Et suite à ces impacts, et notamment à ces remontées qu'on a sur les contaminations de terrain, notamment de nos produits bio, l'ANSES réévalue le produit régulièrement ou met des mesures restrictives pour son utilisation, avec des doses homologuées qui sont plus faibles et avec l'utilisation notamment des produits qui évitent normalement cette volatilisation et qui ont été mis en place depuis 2023 notamment. Mais on s'aperçoit que malgré toute cette réglementation, qu'on a toujours autant de retours, nous, en termes d'agriculteurs contaminés, et toujours cette problématique avec ces analyses en 2025 de contamination du milieu. Donc on est convaincu que les agriculteurs respectent la réglementation, utilisent toutes les méthodes qui sont obligatoires pour l'utilisation de ce produit phytosanitaire, mais malgré cela, on reste sur une contamination très large et une volatilisation qui est incontrôlable malgré tous les outils technologiques qu'on peut mettre en place pour ce produit. D'où notre revendication actuelle, en dehors de l'indemnisation de nos produits qu'on met à la poubelle, c'est le moratoire ou l'interdiction de ce type de molécule qui est problématique, puisque c'est ce que Floral disait, hein, c'est que comment on peut autoriser un produit qui a autant de volatilité et autant de contamination sur notre milieu environnant.
J'imagine, on l'a entendu tout au long de l'interview, et vous-même David, vous le confirmez, c'est un produit qui est extrêmement volatile. J'imagine que ce n'est pas le seul facteur c'est l'un des facteurs les plus...
problématiques.
Exactement, problématiques. Mais j'imagine qu'il y a d'autres, par exemple, les sources d'eau peuvent l'être contaminées ou tout simplement par ruissellement, des choses comme ça. En ville, par exemple, admettons, il y a un nuage ou des vents même peuvent amener des nuages de pluie, faire tomber sur les cultures des particuliers et ainsi de suite. C'est l'effet boule de neige, en fait, tout simplement.
Exactement. On sait donc que ce produit est extrêmement volatile, donc il pollue ou il empoisonne, je vais le dire, je vais utiliser ce terme, hein, qui est fort, encore une fois. Il empoisonne l'environnement sur un rayon de 1, 2, voire 3 km autour de son lieu d'épandage. Ça, c'est un premier point. Donc, il va se déposer sur l'ensemble des terrains autour du champ traité. Donc, ça, c'est un premier point. Donc, on sait qu'on en retrouve dans l'air, on sait qu'on en retrouve dans les aliments qu'on consomme, et on commence à avoir des résultats sur de l'eau de consommation qui est également contaminée. Donc ça, c'est plutôt de l'eau de surface qui est parfois utilisée pour la consommation humaine. Pour l'instant, on n'en retrouve pas encore dans l'eau souterraine, dans les nappes phréatiques, puisque c'est a priori pas un produit, mais il est encore peut-être trop tôt pour le dire, un produit qui se retrouve dans les eaux souterraines. Mais en tout cas, on en retrouve dans l'eau de surface et donc évidemment dans l'eau d'évaporation et avec potentiellement une contamination avec l'eau de pluie.
Donc j'imagine que effectivement ça va et ça risque de toucher de manière à l'échelle nationale un maximum de terres et de champs, et ensuite ça va continuer à augmenter, et ne serait-ce que pour limiter maintenant cette pollution, c'est compliqué, ou il y a des possibilités de limiter cette pollution?
Alors si on suit les réglementations de l'ANSES, ou même de Syngenta, qui est l'obtenteur de cette matière active, hein, ils travaillent depuis plusieurs années pour limiter les pollutions des cultures non cibles, donc les cultures qui ne sont pas traitées avec ce produit, donc le sarrasin, on l'a cité tout à l'heure, le quinoa, etc. Donc il y a des réglementations qui sont de plus en plus strictes, qui avaient l'objectif de limiter les contaminations accidentelles. On s'aperçoit, en tout cas nous à notre échelle, que ça ne fonctionne pas et que ça ne suffit pas. La vraie problématique, c'est réfléchir à des molécules alternatives qui peuvent faire le même travail et qui éviteraient la contamination de l'ensemble du milieu. Et nous, en agriculture bio, encore une fois, je le dis comme ça, mais les collègues conventionnels qui font des céréales utilisent tous ce produit. Nous, on fait également des céréales. On est à peu près 20 000 exploitants bio à faire de la céréale en France, et on s'en sort très bien sans ce produit. Donc il y a d'autres façons de faire, des méthodes autres que utiliser des produits phytosanitaires, des pesticides, pour faire de la céréale. Donc il y a on revient à l'agronomie, hein, sur des choix variétaux, sur des dates de semis, sur du travail mécanique pour le désherbage mécanique, etc. On sait faire, on sait en tout cas si les collègues ne veulent pas se convertir au bio, pourquoi pas, mais on peut les encourager en tout cas à l'utiliser en moins grande quantité et à utiliser des méthodes alternatives agronomiques qui permettraient d'utiliser moins souvent ce produit.
C'est ça, donc dans certains cas, vous comprenez que certains continuent d'utiliser ce produit pour justifier d'autant plus un taux de rentabilité dans un contexte économie et agraire assez fracturé depuis de nombreuses années, mais il y en a qui peuvent prôner cette rentabilité-là et... Justement, comment leur faire changer d'avis ?
C'est toujours la même question. Hein. Quelle priorité on donne ? Est-ce que c'est la santé publique ou est-ce que c'est la rentabilité d'une exploitation agricole qui, encore une fois, je veux dire, est tout à fait possible avec d'autres pratiques. Enfin, moi, je suis céréalier, je fais des céréales dans mes parcelles sans ce produit chimique et je m'en sors très bien économiquement parlant. Donc, il y a des possibilités de faire sans. Et encore une fois, l'utilisation de ce produit, nous empêche, en agriculture bio, mais en agriculture conventionnelle également, de faire des cultures qui sont... super intéressante au niveau agronomique, au niveau nutritionnel. Si on parle du sarrasin, on a eu la possibilité, nous, à plusieurs collègues, de développer une filière sarrasin, farine de sarrasin, pour faire notamment des crêpes ou des choses comme ça. Nutritionnellement parlant, c'est très intéressant comme farine. Elle est sans gluten, elle apporte des nutriments qu'on ne trouve pas dans la farine de blé, par exemple. Agronomiquement, c'est une plante, le sarrasin, qui est extrêmement rustique, qui est très résistante aux aléas climatiques, notamment au manque d'eau, donc qui ne nécessite pas d'irrigation. Donc dans mon assolement, dans ma gestion de culture, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de ne plus faire. Elle est extrêmement intéressante. Le problème, c'est que je ne veux plus prendre le risque d'en faire parce que ça peut être potentiellement contaminé par les collègues et donc potentiellement à jeter sans indemnité. Donc là, moi, aujourd'hui, je ne peux plus travailler. Je n'ai plus cette possibilité de gérer mon entreprise comme je l'entends à cause d'une contamination croisée. Donc ma rentabilité est également remise en cause par l'utilisation de ce produit. Donc, quelle priorité on donne ? Est-ce qu'on donne une priorité à la santé ou est-ce qu'on donne une priorité à la rentabilité ? Et quelle rentabilité pour quel type d'exploitation ? Moi, je vous dis qu'en agriculture bio, aujourd'hui, on s'en sort très bien sans ce produit.
Ça. Donc, en fait, il faudrait limite retourner aux, entre guillemets, fondamentaux de l'agriculture, donc avec, voilà, avec ces années de changement de culture, des choses comme ça, et tout simplement de jachère aussi pour le sol. Donc, ça permettrait aussi voilà, de respecter le temps de pause. Et tout simplement, il n'y a pas de secret. Ça va être justement de conserver cette manière et méthode qu'il y a dans le bio, certainement.
Exactement, c'est exactement ça. C'est reprendre les principes de la bio pour essayer de ne pas utiliser ou de moins utiliser, en tout cas, les produits phytosanitaires. Mais après, ce n'est pas simple hein, non plus. Les choses, on ne peut pas demander à un agriculteur conventionnel du jour au lendemain de passer à l'agriculture bio sans autre accompagnement. Et là, on se retourne encore une fois envers les pouvoirs publics, parce que pour moi, c'est ça la pierre angulaire. C'est il faut que les pouvoirs publics encouragent les collègues conventionnels à se tourner vers des pratiques agroécologiques plus respectueuses de l'environnement. Et si on veut parler d'actualité, vous en parliez tout à l'heure avec les manifestations qu'on observe aujourd'hui dans le monde agricole, c'est pas du tout ce que les messages qui sont envoyés par les politiques avec... les lois d'urgence agricole qui sont proposées là récemment, qui sont une loi du plomb 2, hein, pour faire simple et pour être caricatural. Et c'est pas cette solution-là qui va encourager les agriculteurs à aller vers une des pratiques plus respectueuses de notre santé, de notre environnement en général.
Comment vos collègues du conventionnel accueillent cette étude et la mobilisation qu'il y a là autour ?
Alors, des échanges qu'on a eus avec certains, en tout cas, tous sont conscients de ce problème. Depuis plusieurs années, ça c'est très bien. Mais après, j'ai envie de dire, ça nous fait une belle jambe. Être conscient du problème, c'est une bonne chose. C'est un bon début. Mais nous, on subit toujours cette problématique. Donc, être conscient du problème, encore une fois, c'est un bon début. Après, je pense qu'il y a une vraie inquiétude, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, si on enlève ce produit, comment faire ? Et là, nous, on les oriente vers les politiques pour les encourager, les accompagner vers un changement de pratique et un changement de système, de modèle, exactement. Et encore une fois, nous, avec le GAB, le groupement des agriculteurs bio, on fait régulièrement des réunions techniques, des groupements de développement agricole qui sont ouverts à tout le monde. Et on a souvent des agriculteurs conventionnels qui viennent avec nous pour voir sur le terrain comment faire, comment travailler ensemble. Et nous aussi, on a des choses à apprendre aussi des collègues conventionnels sur le travail du sol, etc. Donc, on peut... intelligemment, travailler ensemble et réfléchir à d'autres pratiques et à d'autres modèles. Donc ça, c'est un premier point. Mais voilà, ça reste compliqué. C'est un changement de modèle, encore une fois. Les changements d'habitude ne sont pas simples, hein, que ce soit pour le citoyen ou pour l'agriculteur. Et ça doit être, encore une fois, accompagné et aidé financièrement par les pouvoirs publics pour encourager, encore une fois, l'ensemble de la profession agricole à changer de modèle. Il y a des études qui le montrent depuis 2-3 ans. Là, je crois que c'est le Shift Project qui a montré, suite à une enquête auprès d'un grand nombre d'agriculteurs, je crois qu'ils étaient entre 10 et 15 000, 80% des agriculteurs sont prêts à changer. Mais ils ne vont pas le faire tout seuls.
Si on les accompagne.
Les accompagner. C'est toujours ça, un accompagnement technique, un accompagnement financier pour qu'ils changent leurs pratiques.
Cette étude, elle permet aussi de mettre en valeur l'aspect des jardins privés. C'est assez nouveau d'étudier des contaminations liées à l'agriculture, mais dans des jardins privés. Est-ce que ça indique aussi une nouvelle bataille sur le plan juridique, peut-être sur cet aspect privé-public
Suite à ces résultats qui sont statistiquement non représentatifs, mais représentatifs quand même d'une réalité, ça on en est convaincu, mais on va le voir en 2026, donc l'automne prochain, on va développer cette étude, élargir cette étude à l'ensemble du territoire français pour montrer que cette problématique n'est pas spécifique au Loir-et-Cher et que ça va bien au-delà et qu'on est convaincu qu'en zone notamment rurale et urbaine à proximité des champs sont également concernés par cette contamination. Toujours est-il que cette étude de 15 analyses va permettre juridiquement à Génération Future, qui est très active sur ce sujet, mais également à l'AFNAB, de saisir l'ANSES pour une réévaluation de cette molécule et éventuellement la mise en place d'un moratoire, donc une interdiction de cette molécule, tant que les analyses de cette toxicité ne sont pas mises en avant ou mises sur la table. Et donc ça c'est le travail juridique qui est mis en place maintenant, mais qui va être élargi à l'échelle nationale. Si rien ne bouge d'ici 2026, à l'automne 2026, si rien ne bouge, pour montrer que, encore une fois, cette contamination ne concerne pas que les jardins du Loir-et-Cher, évidemment.
Et les autorisations sont juste au plan national ou il y a aussi le plan européen qui joue sur les autorisations d'utilisation ?
Alors là, je maîtrise beaucoup moins l'aspect réglementaire sur les autorisations de mise sur le marché. Je sais que le prosulfocarb est autorisé et a été réautorisé jusqu'en 2027, en tout cas sur le marché français, sûrement à l'échelle européenne, mais ça, je ne suis pas sûr de moi, je ne sais pas.
Cette pollution donc, a contamine les récoltes, mais tout simplement aussi la récolte du particulier. Comment faire, entre guillemets, pour se défaire de cette pollution, puisque on revient toujours au même. Voilà, l'habitude, on va au supermarché, on lave ses légumes, on lave à peu près tout. Est-ce que juste simplement le fait de laver, entre guillemets, ses récoltes de son jardin peut suffire à limiter cette intoxication due à ce produit ?
Je vais faire une réponse. Je suis coprésident des agriculteurs bio, je vais faire mon plaidoyer pour la bio. Et objectivement, le meilleur moyen pour s'en prémunir, c'est développer l'agriculture biologique. On est convaincu que si on développe sur le territoire le nombre d'exploitations en agriculture biologique, ce type de contamination sera beaucoup moins important, tant en quantité qu'en qualité. C'est-à-dire qu'on aura peut-être encore l'utilisation de prosulfocarb chez les collègues conventionnels qui seront toujours présents, mais les volumes dans l'air seront bien moins importants et les retombées sur le milieu seront bien moins importantes. Donc je vais faire cette réponse-là, c'est développer l'agriculture biologique au maximum pour limiter les risques de contamination de notre milieu, donc encore une fois de l'air qu'on respire et de ce qu'on peut utiliser pour se nourrir dans notre jardin ou dans ce qu'on peut acheter au supermarché. Là, les statistiques le montrent, les résidus de produits phytosanitaires en agriculture biologique ou en agriculture conventionnelle sont bien moindres en agriculture biologique et sont souvent liés à des contaminations accidentelles, des contaminations du conventionnel, de produits utilisés en conventionnel vers l'agriculture biologique. Donc plus on développera encore une fois ce mode de production, plus on se protégera globalement notre santé et notre environnement.
Actuellement, est-ce qu'il y a d'autres produits phytosanitaires qui posent problème aussi au niveau de la volatilité ?
Oui, malheureusement, j'ai envie de dire que c'est l'arbre qui cache la forêt, parce qu'on a des analyses qui commencent à tomber sur d'autres produits qui semblent être tout aussi volatiles, mais on n'a pas assez de recul pour l'affirmer aujourd'hui. Mais en effet, c'est toujours des désherbants principalement qui ont cette volatilité extrême, comme le prosulfocarb, qu'on n'analysait pas jusque-là ou qui étaient très peu utilisés jusque-là, qui sont de plus en plus utilisés dans le milieu conventionnel et du coup qui contaminent de plus en plus le milieu. Donc là, on a des retours pour nous, agriculteurs bio, d'analyse de produits où on retrouve du prosulfocarb, évidemment, mais aussi d'autres matières actives. Il y en a deux ou trois, encore une fois, qu'on va malheureusement devoir pointer du doigt parce qu'elles sont extrêmement problématiques pour notre environnement.
On l'a bien compris, derrière le prosulfocarbe, c'est l'histoire aussi d'un changement de modèle agricole. Votre profil, il est très intéressant puisque vous étiez en conventionnel avant. Qu'est-ce qui a été un peu le déclencheur pour vous de changer de modèle et de passer à l'agriculture bio?
Il y a eu ces aspects. Alors c'était pas lié au prosulfocarbe, mais quand on est agriculteur conventionnel, donc évidemment on est potentiellement les premières victimes d'utilisation des produits phytosanitaires, puisqu'on les utilise, je vais pas dire tous les jours, mais très régulièrement. Donc on a des enfants, on a une famille, on lit, on reçoit beaucoup d'informations sur ces sujets-là, et puis on s'aperçoit que on est un peu déconnecté de l'agronomie. Alors là j'exagère un tout petit peu, mais pas loin quand même. C'est qu'on a En agriculture conventionnelle, on a quand même un système qui est je fais du blé, j'ai ma recette pour le blé, c'est-à-dire que je mets un désherbant, je mets un insecticide, un fongicide, et à la fin d'année, je récolte et je vends mon produit à tel prix. Et tout est écrit et chaque année, c'est à peu près la même chose. En agriculture bio, on complexifie un peu plus les choses, mais on revient sur les bases de l'agriculture, de l'agronomie, et donc on travaille plus sur les rotations, on travaille plus sur le sol. Je suis très caricatural, hein. En agriculture conventionnelle, il y a des collègues qui font du super boulot sur le travail du sol également, en non-labour notamment. Mais voilà, il y a une autre façon de raisonner et de travailler qui est bien plus épanouissante, en tout cas pour moi, bien plus plaisante. Et on s'aperçoit que moi qui fais de la vente directe, notamment sur les marchés, sur les salons, par le biais de magasins, que quand on est en agriculture biologique, on a beaucoup moins de difficultés d'être transparent sur ce que l'on fait, à montrer et à accueillir des gens sur sa ferme pour montrer exactement ce que l'on fait. Le fait qu'on ait planté des haies, par exemple, sur l'exploitation. Moi, j'ai planté 3000 arbres sur ma ferme, pour éviter notamment ces risques de contamination, entre autres, hein, mais également pour accueillir, faire gîte et couvert pour les insectes et les oiseaux qui vont me servir pour limiter et ne pas utiliser d'insecticides sur mon exploitation. On introduit beaucoup plus de cultures sur ma ferme. Quand j'étais en conventionnel, j'étais sur 4 cultures. Là, aujourd'hui, je suis sur 20 cultures. Donc, c'est bien plus sympa, bien plus excitant mentalement de travailler, de réfléchir et de tester des choses. Mais on prend beaucoup plus de risques. Encore une fois, je le complexifie beaucoup plus, mon système, et je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas eu à l'époque d'accompagnement financier, d'accompagnement technique, du groupement des agriculteurs bio notamment, qui accompagne les agriculteurs à se convertir au bio. Et tout ça, ça m'a permis à passer ce cap et à arriver à un système qui aujourd'hui me satisfait pleinement, m'épanouit complètement dans mon métier. Quand on fait des enquêtes auprès des agriculteurs, on s'aperçoit que les agriculteurs bio sont à plus de 90% heureux de ce qu'ils font. Et effectivement, moi, je suis heureux de ce que je fais.
Pour tous ceux qui voudraient en savoir plus, où est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur l'étude, sur quel site
Alors, il y a trois, à la suite à cette étude, il y a trois acteurs majeurs, donc le GABLEC pour l'échelle départementale, donc le site du GABLEC, donc GABLEC 41, où il y a notre communiqué de presse sur le sujet avec les résultats de ces analyses. Il y a la FNAB, la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique, qui a fait son propre communiqué de presse en association avec Génération Future pour la communication nationale. Et avec Génération Future, il y a un rapport extrêmement complet qui explique tout l'historique de cette matière active, de cette mise sur le marché de cette matière active, de cette toxicité, de son utilisation en France et des saisines qui ont été faites auprès de l'ANSES et des suites à donner pour cette action.
Et quelles sont les suites justement en Loir-et-Cher? Est-ce qu'il y a des choses de prévues prochainement pour continuer la mobilisation?
Alors oui, c'est ce que disait Flora. Là, on va interpeller le préfet sur ce sujet, parce que c'est lui, le représentant de l'État, qui, encore une fois, pointé du doigt. Nous, on ne veut pas pointer du doigt les collègues conventionnels, encore une fois, qui utilisent un produit qui est autorisé, qui est homologué et qui est un des outils qui leur est mis à disposition pour travailler sur leur champ. Donc nous, on ne veut pas pointer du doigt les collègues, on pointe du doigt encore une fois l'État qui met sur le marché un produit qui pour nous est problématique. Donc c'est le préfet à notre échelle qu'il faut interpeller. Donc on va l'interpeller, on va échanger avec lui, les élus, les députés qu'on va rencontrer également. Donc là, il y a des rencontres qui sont déjà prévues avec les deux principaux concernant le nord du département, Marc Fesneau et Marion, Christophe Marion pour le Vendômois, qu'on doit rencontrer très prochainement, mais qui sont au courant de cette problématique. Hein. Marc Fesneau était ministre de l'Agriculture, donc est très au courant de cette problématique. On a déjà échangé dans le passé avec lui. Donc, les re-interpeller une énième fois, encore une fois. Et puis après, si, encore une fois, on ne voit rien qui évolue sur les semaines ou mois à venir, bah, c'est amplifier la mobilisation. Donc là, on a des citoyens avec nous cette fois. On n'est plus que les agriculteurs à se mobiliser. On a des citoyens qui se mobilisent bien, notamment dans le nord du département. Donc, je pense qu'on sera plus fort à plusieurs. Et on réitérera cette action, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'échelle nationale, pour mobiliser plus largement, encore une fois, que ce qui s'est passé pour le Loir-et-Cher. On a, encore une fois, suite à cette action dans le Loir-et-Cher, on a eu des retours assez importants de citoyens et d'agriculteurs d'un peu partout en France qui ont cette même problématique. Flora le disait, hein, mais les langues se délient. C'est-à-dire qu'on était isolés un peu partout, on y pensait, on disait « ouais, c'est un peu... » pénible, pour être gentil, d'avoir à jeter notre récolte. Est-ce que ça concerne d'autres gens? Bon, ben non, peut-être pas. Je suis peut-être le seul, donc je ferme ma bouche, entre guillemets. Et là, on s'aperçoit que voilà, il y a des langues qui se délient, des remerciements de collègues qui sont sûrement isolés dans leur coin, qui se retrouvent à pas pouvoir agir seuls. Et donc, voilà, je pense qu'on peut faire bouger les choses, c'est l'objectif, et faire évoluer encore une fois les mentalités et éventuellement les pratiques à l'échelle nationale.
Eh bien, un grand merci David. On pourra réécouter cette émission sur le site de Studio Zef, studiozef.fr. Merci de votre participation et de nous avoir permis de mieux connaître cet herbicide et puis son impact environnemental. Merci beaucoup.
Merci.